Nous sommes le jeudi 14 mars 2019, il est presque 13h23 à Paris, une heure de moins en temps universel. C'est l'heure de votre émission, c'est l'heure du journal des auditeurs.
Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. Vous le savez, chaque jour dans le JDA sur Africa du lundi au vendredi, vous pouvez commenter l'actualité, nous faire part de vos analyses, de votre regard sur l'information, poser vos questions sur les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, comment bien préparer son retour en Afrique? De plus en plus de migrants choisissent de bénéficier de l'aide au retour volontaire. Ce dispositif de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, permet aux migrants de bénéficier d'un billet d'avion pour son pays d'origine et d'une prime. Alors que pensez-vous de ce dispositif? À qui s'adresse-t-il et quels sont les défis qui attendent ceux qui veulent se réinstaller sur le continent? Nous en parlerons avec Achille Batamak, il est directeur général de l'association Tislien. Nous serons également avec le président de l'association Alain Sontag. Cette association accompagne justement les candidats au retour volontaire dans leur démarche. Pour participer, posez vos questions, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde, notamment depuis Abidjan. Vous savez, nous aussi, Africa, on fait notre retour sur le continent. On arrive à la fin de ce mois. Je rappelle qu'à cette occasion, nous changerons de nom pour devenir Africa Radio. Un nouveau nom, mais une même radio d'ailleurs. Comme de tradition, on se tourne tout de suite vers le répondeur d'Africa pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Pardon de couper, madame. Tout à l'heure, M. Diaby, je recommence encore. Madame, je vous remercie pour le débat de demain que vous avez mis en jour. Madame, sincèrement, je remercie le président Aladi Alassane Dramane Ouattara qui a tenu un travail extraordinaire en Côte d'Ivoire. Vous savez, madame, quand on va en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour aller construire, il y a des individus qui sont là, qui viennent piller les gens. Quand vous commencez à construire, il y a le district d'Abidjan, il y a le ministère de construction, plus il y a l'Amérique qui vient. Est-ce que vous avez permis de construction? Quand vous n'en avez pas, ben voilà, il y a des gens qui viennent, vous n'avez pas le droit de construire. Il faut que vous donnez 150 000 francs CFA ou bien 200 000 francs CFA au moins pour construire. Vous êtes obligé de donner parce que vous avez pris votre billet pour aller construire. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça pour venir. Moi, j'appelle le gouvernement, vraiment, il faut qu'il fasse très attention. Les voyous, les délinquants qui sont sur place, venez prendre l'argent avec les gens. Vraiment, sincèrement, il faut que le gouvernement fasse très attention pour cela. Parce que vraiment, on en a marre. On ne peut pas aller construire chez soi. Ce n'est pas possible. Il y a des gens comme le ministère de construction, ils sont là pour quoi? C'est des mêmes voleurs. Ils sont là pour piller les gens. On ne peut pas aller construire. Sincèrement, demain, je vais appeler aussi, madame. Au revoir. C'est M. Diaby de Samantila. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, chers amis de JDA. Oui, je reviens encore sur un problème assez crucial concernant la grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Vous savez, les études sont la seule voie d'ouverture pour la jeunesse et pour l'instruction et pour le développement. Et alors qu'en Côte d'Ivoire, on a mis une ministre d'éducation qui ne comprend rien à la chose, elle arrête les étudiants, elle arrête les enseignants pour les mettre en prison parce qu'ils manifestent. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est de permettre à chacun de s'exprimer et de faire un choix dans ses expressions pour pouvoir développer et aller à l'avant. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. C'est devenu une région, une république bananière. Quand tu manifestes, on t'attrape, on te met en prison, on te bastonne, ou on ferme les écoles, on empêche les enfants d'aller à l'école. Et pendant ce temps, quand Dia Camara, qui est la ministre de l'Éducation nationale, ses enfants sont en Europe, ses enfants sont aux États-Unis. Est-ce que c'est normal ça? Et encore, je suis désolé pour être en colère. Merci.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour les amis de JDA, bonjour le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Nous saluons la communiqué de la communauté internationale ou des Nations Unies pour le massacre de Yumbi. Où sur leur communiqué, ils ont dit c'est un crime contre l'humanité. Mais qui a commis ce crime contre l'humanité? C'est Joseph Kabila. C'est pour cela que nous demandons au peuple congolais. Kabila ne sera pas arrêté par des paroles. Ramenons nos preuves tangibles pour le massacre de Yumbi. les massacres de Kamwana Sampou, des fausses communes de Maluku. Ramenons nos preuves et Kabila sera arrêté, de gré ou de force. Lui, il croit qu'il y aura l'impunité.
Oui, bonjour amis du GDA, amis peuple, bonjour amis congolais. Je m'adresse particulièrement à M. Tshisekedi Félix, le président nommé par Kabila. Je voulais savoir, monsieur le président, mais j'avais vu à Genève, vous avez eu la possibilité de renoncer à votre signature, de retirer carrément votre signature, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'arriviez pas à renoncer et à retirer tous les accords que vous avez faits avec Kabila. Vous savez, vous vous faites vous-même ennemi du peuple congolais parce que vous êtes président de la République, mais en vrai, c'est M. Kabila qui vous dirige. Mais vous êtes le commandant suprême. Maintenant, vous avez même la possibilité d'arrêter Kabila. Mais on ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à le faire, que votre conscience vous interpelle. Merci beaucoup, M. Tshilombo. Au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en composant le 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous parlons de l'aide au retour volontaire. Comment bien préparer son retour en Afrique? De plus en plus de migrants choisissent de bénéficier de l'aide au retour volontaire. C'est un dispositif de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui permet aux personnes désireuses de retourner en Afrique de bénéficier d'un billet d'avion pour leur pays d'origine et d'une prime à la réinstallation. Alors on parle aussi souvent de plus en plus ces derniers temps du phénomène des RIPATS, ces jeunes qui ont été aussi formés en France et qui veulent avoir leur expérience professionnelle sur le continent. Alors quels sont les défis qui attendent ceux qui veulent se réinstaller en Afrique? N'hésitez pas, appelez-nous pour nous faire part de vos témoignages, notamment 33 1 55 07 58 00. Pour en parler, nous recevons l'association Tislien. Le président Alain Sontag est avec nous. Monsieur Sontag, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être là. Nous sommes également avec Achille Batamak, directeur général de l'association Tislien. Et trésorier, on peut le préciser, Achille Batamak, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez nous parler un peu de cette association Tislien qui, outre la médiation sociale ou la formation professionnelle, accompagne, l'association Tislien accompagne les candidats justement au retour volontaire dans leur démarche. Alors tout d'abord, en quoi consiste ce dispositif d'aide au retour volontaire dont vous assurez la promotion? Qui concerne-t-il? Quelles sont les dispositions, Achille Batamak?
Merci Stéphanie. D'abord, je vais être très simple et très court. Ce sont des dispositifs franco-européens en France qui sont gérés par l'OFI, qui accompagnent les migrants en fin de parcours migratoire ou désireux de rentrer dans leur pays pour les aider à se réinstaller et à monter une activité professionnelle qui permet évidemment une réinstallation réussie, surtout pour une réinsertion par l'activité économique. Ce dispositif comprend trois types d'aides. Nous allons y revenir, je pense, un peu plus tard.
Allez-y, je vous en prie.
Alors, le premier type d'aide, qu'on appelle la réinsertion simple, qui s'associe généralement avec les deux autres, parce qu'il n'est pas attribué tout seul, c'est une réinsertion qui permet aux candidats qui viennent de rentrer dans son pays de s'installer confortablement, c'est-à-dire d'acheter
une maison, pouvoir louer un appartement.
Voilà, ou bien à pouvoir équiper quand il a une maison, acheter
un frigo, de l'électroménager.
Tout à fait. Il s'associe généralement avec le second ou le troisième. Le second concerne les étudiants.
D'accord.
Qui ont terminé leurs études en France.
Oui.
Ça peut être des études universitaires ou des études de formation professionnelle et qui aimeraient travailler dans leur pays. Alors, l'OFI prend en charge ce retour et permet, accompagne les candidats à la recherche d'emploi. C'est l'OFI qui les accompagne. Il y a un dispositif à travers les opérateurs.
Je rappelle, l'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'intégration, c'est un organisme français qui gère les flux entrants et les flux sortants en France. Et donc, je disais que les étudiants sont accompagnés dans ce parcours de réinsertion par l'emploi, soit par la formation, par une formation complémentaire.
Sur place.
Et l'OFI prend en charge en moyenne 50% du salaire.
D'accord.
Pendant une année.
D'accord.
C'est l'OFI qui les aide également à retrouver ou à chercher, qui l'accompagne dans le cadre de la recherche d'emploi dans le pays. Et le troisième type, qui est généralement le plus sollicité, c'est la création d'entreprise. Les étudiants peuvent entrer dans ce dispositif aussi. S'ils souhaitent créer une entreprise, ils peuvent entrer dans le dispositif de type 3. Alors, celui de type 3, il concerne tous les migrants en situation irrégulière qui souhaitent rentrer volontairement dans leur pays à créer, n'est-ce pas, une activité économique par la création d'entreprises. En général, nous travaillons avec Tislien, nous travaillons sur le profil du candidat, son adéquation avec le projet, et nous l'aidons à monter ce projet pour que les financements suivent avec l'OFI.
Alors, vous avez donné une expression intéressante, hein, c'est de parler des migrants en situation irrégulière, parce que c'est vrai, hein, qu'on pense souvent, je dis qu'on parle du retour en Afrique, hein, quand on a évoqué cette émission, moi je pensais, hein, aux jeunes qui ont grandi et étudié en France, hein, tout en étant nés parfois sur le continent africain, hein, finalement, qui souhaitent construire une expérience professionnelle en Afrique, ce qu'on appelait les RIPATS.
Oui.
Vous adressez plutôt aux migrants en situation irrégulière, on est bien d'accord, clairement ?
Clairement, oui, dans le dispositif de l'OFI. Mais,
ce dispositif ne s'adresse pas aux migrants en situation régulière, ni même aux Français d'origine africaine.
Non, il existe d'autres dispositifs sur lesquels nous ne sommes pas en charge. Celui-ci concerne exclusivement les migrants en situation irrégulière, je le précise. Par contre, il y a d'autres dispositifs. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont intéressés à assister samedi prochain à la Bourse du Travail de Saint-Denis, à la journée du Mali, sur le co-développement et sur les dispositifs qui peuvent accompagner les RIPAD, n'est-ce pas, à s'installer ou à créer une activité en Afrique.
La notion de co-développement.
C'est ça.
Quels sont les freins, messieurs, je ne sais pas, vous répartissez la parole peut-être à la Santa. Quels sont les freins parfois au retour? On entend bien que ce dispositif est aussi associé à une certaine politique migratoire de la France. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qui empêche un migrant en situation irrégulière de rentrer chez lui? J'imagine qu'il, quand il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres, parfois au risque de sa vie, pour venir jusqu'en France, il n'a peut-être pas envie de rentrer.
Alors, c'est en effet un des obstacles majeurs, l'aspect psychologique du retour, c'est-à-dire il ne faut pas que le retour soit synonyme d'aveu d'échec. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, en ce qui nous concerne, Tislien, et dans l'accompagnement des gens, puisqu'en fait, on est réellement dans l'accompagnement de ces personnes, on parle de redevenir ou de devenir acteur économique dans son pays. Bon, alors il y a d'autres obstacles. Le premier, c'est l'ignorance dans laquelle se trouvent la plupart des populations concernées. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous avons, nous, signé une convention avec l'OFI, nous donnant mandat à l'effet d'informer, en fait, les diasporas des dispositifs existants. Il y a un troisième obstacle, qui est également un obstacle français, c'est la peur. C'est-à-dire que, en fait, l'OFI a souvent et toujours partiellement assimilé au ministère de l'Intérieur dont elle dépend. Et ministère d'Intérieur a évidemment une connotation entre guillemets policière, hein, qui évidemment effraie.
Entre guillemets.
Même si, non, j'ai mis les guillemets parce que, en effet, c'est une peur, mais ça n'est pas une réalité. C'est-à-dire que l'OFI n'a pas du tout vocation et n'a jamais de relation avec les autorités, genre préfectorales ou police, pour contrôler la situation des gens.
C'est intéressant, c'est-à-dire que si, j'imagine qu'un migrant en situation irrégulière, alors il va se dire, si je vais voir l'OFI pour bénéficier de ce dispositif, je vais avoir dans tous les cas, on va m'envoyer, comment on appelle ça, une occupée,
une obligation à quitter le territoire.
Une obligation à quitter le territoire, voilà.
Non. Alors,
est-ce que non, vous garantissez aux gens, finalement, même si vous mettez un pied dans ce dispositif, bon, vous inquiétez pas, si vous en sortez, vous recevrez pas de d'OQT.
Merci Stéphanie, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi Luffy a accepté que nous jouions ce rôle d'intermédiaire. Luffy n'a pas vocation, comme disait Alain tout à l'heure, à expulser. Il y a toute une procédure qui est diligentée par la préfecture et qui généralement, même après l'obligation de quitter le territoire, est confirmée, peut être confirmée ou infirmée par un juge. Donc il y a toute une procédure. Luffy gère les flux entrants et les flux sortants. Le cadre des flux sortants, Luffy ne travaille pas avec la préfecture.
Il n'y a pas de partage de fichiers, vous dites.
Nous savons. Alors, je vais vous expliquer.
C'est important pour les auditeurs qui nous écoutent.
Oui.
Très important.
Le seul moment où Luffy partage les fichiers avec les informations avec la préfecture, c'est pour lever une obligation de quitter le territoire. Alors, à partir du moment où vous entrez dans le dispositif de retour volontaire de Luffy, vous ne pouvez plus être expulsé. Donc, il faut lever cette expulsion.
D'accord.
Et nous accompagnons pendant un mois, deux mois, trois mois. On a eu des candidats avec lesquels on a travaillé pendant plusieurs semaines pour préparer leur projet de retour. Mais pendant cette période, avant leur départ, ils sont protégés par le document de Luffy. Donc ils ne peuvent pas être expulsés. Luffy demande simplement la levée de cette obligation de quitter le territoire.
Alors en effet, donc c'est un espèce de sauf-conduit qui leur est accordé lorsqu'ils rentrent dans le dispositif. Et... si la chose va au bout, très bien, parfait. Si la chose ne va pas au bout, eh bien, on efface tout, on efface les ardoises, et en fait, la personne retrouve sa situation d'avant.
C'est très clair, merci pour ces précisions. On va donner la parole aux auditeurs, messieurs. On va se diriger du côté du chat, j'espère que la ligne sera bonne. Écoutez Christian qui nous avait laissé un petit message sur Facebook. Christian, bonjour.
Ouais, bonjour Stéphanie.
Bonjour Christian. Que pensez-vous de ce dispositif?
Ouais, ce dispositif ne va pas plaire à tous les migrants parce que quand ils seront de retour au pays, il faudrait bénéficier d'une formation pour s'installer dans la vie active. Mais les faire venir au pays sans toutefois à être formé, je pense que ça va encore engendrer d'autres problèmes en Afrique.
C'est intéressant, merci Christian. Alors, vous n'envoyez pas les gens comme ça dans leur pays d'origine, dans la nature. Il y a Kabiloté justement sur facebook.com qui nous dit « C'est clair, 2 500 euros, ce n'est pas suffisant. Souvent, la journée des migrants vers l'Europe, le voyage des migrants vers l'Europe dépasse 2 500 euros. » Plusieurs questions dans cette intervention, messieurs. Comment vous accompagner? Moi, je voulais revenir, j'ai dit 2 500 euros, parce que je voulais revenir d'abord sur la question des montants. Vous avez bien détaillé, il y a une aide à l'installation, il y a une aide pour les étudiants en recherche d'emploi, et là, c'est 50% du salaire, et après, il y a l'aide à la création d'entreprise. Globalement, c'est combien? On peut espérer avoir jusqu'à combien?
Alors, on vous donne le minimum, on vous donne pas d'abord, c'est pas ces 2 500 euros, c'est pas exact.
C'est ça, voilà,
c'est un vieux dispositif des années 2005 que votre auditeur a dû lire. Aujourd'hui, le minimum,
hein.
En fonction des projets, c'est de 6 500 euros.
D'accord.
En fonction de l'importance du projet.
Dans la création d'entreprise.
C'est ça.
6 500 euros minimum.
Oui, c'est ça.
Et maximum
Vous savez, il y a des projets qui peuvent aller à 20 000 euros. Ça tout dépend de l'importance du
D'accord.
projet.
D'accord. Si c'est un projet qui est viable, intéressant...
Et qui crée s'il crée de l'emploi, s'il est innovant en termes de dynamique économique, écoutez, nous travaillons d'ailleurs à ce sujet avec des structures pour permettre à d'autres acteurs de pouvoir
investir aussi ou s'associer. Allez-y,
Oui, je voulais compléter la réponse d'Achille, puisqu'il a parlé de création d'entreprise. S'il s'agit maintenant d'emploi, en fait, la personne reçoit, ou plutôt l'entreprise, qui accepte d'engager les personnes, reçoit une subvention égale à 50% du salaire, voire 60% dans certains pays, dans la limite d'un maximum qui est de l'ordre de 4 à 5 000 euros pour l'année entière.
D'accord.
Donc on est déjà au-dessus des 2005. J'ajoute, parce que ça n'a pas été mentionné, que la réinsertion dite sociale consiste à payer le billet d'avion, donner un pécule à l'individu le jour de son départ... Et ensuite, à déterminer quelle est la situation de la personne sur le plan de son logement, sur le plan de la scolarité, sur le plan de la santé, et redonner un budget, alors là, pour le coup, qui doit être déterminé en fonction de la situation réelle de l'individu, au moment où il rentre sur place.
Et surtout la composition de la famille.
Oui. Aussi. Mmh. Alors, vous nous direz justement, il y avait Christian qui s'interrogeait aussi sur le fait qu'on donne comme ça de l'argent de main à main, est-ce que c'est vraiment efficace? Mais avant cela, comme on arrive bientôt à la fin de l'émission et que les auditeurs commencent à être nombreux en son ordre, écoutez, Camara, bonjour.
Bonjour, Stéphane Hartmann.
Bonjour, Camara. Qu'est-ce que vous connaissiez ce dispositif?
Mais, non, je ne le connais pas, mais à l'écouter, vraiment, ça ne me donne pas aucune confiance. Parce que.
Vous préférez rester ici, hein?
Oui, quelqu'un qui est venu de lui-même dans un lieu où il est là. Mais pourquoi tu ne trouves pas des systèmes pour l'aider? Parce que ne faut pas qu'on se voit la face. Il n'y a pas un immigré qui peut faire un an s'il n'a pas travaillé. Donc, par peur de déclarer celui qui l'utilise, les immigrés, la majeure partie périssent. Moi, je fais partie des gens où, en général, on dit dans notre proverbe, le charbon n'a pas peur du feu. Ok. Du coup, dire que on va rapatrier, eh bien, vous allez chez vous, on va vous aider chez vous. Mais ici là, est-ce que nous on empêche quelqu'un de respirer?
Oui. J'entends bien ce que vous dites, camarade. Finalement, moi, je suis ici, je suis très bien ici. J'ai pas envie de rentrer.
Il y a des milliers d'immigrés qui sont en train de travailler, mais ils ont peur. Mais si le travail n'a pas accès à être régulé dans une nation, mais qu'est-ce qui peut encore gifler quelqu'un? On va te régulariser. Donc, du coup, ça dit, c'est ça, ils doivent trouver un système parce que pour qu'on ne nous exploite pas encore de plus. Parce que la haine.
Au contraire, vous dites finalement, l'OFI devrait se concentrer sur protéger les droits des migrants en France contre notamment.
Effectivement, dit à monsieur de l'OFI, c'est moi, camarade, qui est en train de dire un immigré ne peut pas séjourner dans un pays pendant 6 mois si quelqu'un ne l'a pas exploité. Si les autres doivent prendre 15 euros, il va accepter même prendre 4 euros. Du coup, pour ne pas mourir, ou si quelqu'un, la personne ne s'est pas volée, il est obligé d'accepter cette manière de travail, ou bien cette manière que la personne va l'exploiter.
On a bien compris, camarade.
Quand on est venu de chez nous, c'est pour chercher de quoi manger.
Bien sûr.
Donc, du coup, ça ne fait peur à personne de retourner chez soi.
Bien sûr. Donc, merci, camarade.
Il ne faut pas qu'il cherche à nous faire dormir debout.
Ah, faut pas la faire à camarade, messieurs. Vous l'avez vu, je disais tout à l'heure que finalement, l'association Tislin, vous l'avez dit, vous avez une convention avec l'OFI. On est là pour faire la promotion de ce dispositif. Vous entendez les raisons pourquoi camarade est venu ici. Camarade dit finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on protège mes droits en France parce que je suis un migrant sans papier. Et du coup, je suis exploité. Vous l'entendez, ça, peut-être, Alain Santel?
Oui, alors, en effet, moi, j'ai beaucoup de compréhension pour ces gens-là. Je suis moi-même en contact avec le collectif des sans-papiers. Donc, c'est une problématique que j'aborde librement avec les représentants de ce collectif. La réponse que moi, j'apporterai, en tout respect, en fait, de la personne, de la personnalité de toutes ces personnes-là, c'est que aujourd'hui, les gens qui sont régularisés, très bien, c'est parfait, parfait. Maintenant, on ne peut pas exclure le fait que un certain nombre relativement élevé ont aujourd'hui beaucoup de difficultés à trouver du travail. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Rester dans la rue? Rester comme ça à attendre quoi? Et ce que nous essayons de faire, c'est d'apporter, dans la mesure de nos moyens, une aide.
On est bien d'accord que c'est davantage l'État français qui veut faire partir ces gens-là que ces gens-là eux-mêmes qui ont envie de rentrer.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Juste une petite correction que je voulais amener par rapport à ce que vous dites, Stéphanie. Le retour est volontaire.
Oui, bien sûr.
On ne force personne à rentrer dans le dispositif.
Bien sûr, c'est très important.
Ouais,
c'est important. Et il y avait une question d'ailleurs, Eddy, qui rappelait, on l'a dit en début d'émission, si cette initiative, ce dispositif tue uniquement les personnes en situation irrégulière. On le répète, oui.
Oui.
Ce sont pour les personnes en situation irrégulière.
Les étudiants.
Et les étudiants aussi qui arrivent en fin
d'études, qu'ils soient en situation régulière ou pas, ils entrent dans le dispositif. Ils peuvent entrer dans le dispositif.
Des fois, c'est compliqué de passer d'un statut d'étudiant à un statut de travailleur. On va retourner du côté du stand. Messieurs, je remercie encore Camara. On va écouter Ousmane et David. Ousmane, bonjour.
Bonjour madame, et bonjour à votre invité.
Bonjour Ousmane.
Bonjour. Bonjour.
Je voulais dire, moi ça fait très très longtemps que je suis régulé, mais ça me rappelle le dispositif que Giscard d'Estaing avait fait, les 1 million. Ouais. Il y en a qui sont partis, mais rien ne prouve que la personne à qui on va lui donner l'argent ne va pas revenir ou changer d'identité. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. Voyez-vous,
d'ailleurs, l'extrême droite s'est vite emparée des fois de cette aide au retour volontaire dans les discours de politique intérieure français.
Oui, moi qui est retraité, qui est régulier, mais qui est suivi médicalement en France, n'y a-t-il pas d'autres dispositions ? Parce que je ne peux pas aller 4-5 fois en Afrique faire la navette. Les moyens ne me permettent pas. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs pour les gens réguliers, retraités, tout ça, hein?
Alors,
pour se prendre en charge médicalement et tout ça, parce que moi, je suis pris en charge médicalement et tout ça. C'est ça qui me pose le problème.
On a bien compris, hein, Ousmane. D'ailleurs, je pense qu'on avait déjà évoqué ce cas-là avec vous, hein, c'est que finalement, effectivement, en tant que retraité, vous devez être une obligation d'être sur le territoire français un certain nombre de mois, de semaines, plutôt en mois, pour pouvoir bénéficier de votre retraite. Mais avant cela, messieurs, il nous reste à peine 5 minutes. Hein. Ousmane a posé une question. Il s'agissait de savoir comment on vérifie. Y a-t-il un suivi après sur les gens sur place? Comment on vérifie que quelqu'un est retourné, va pas rentrer, même si dans l'absolu, nous, ça nous dérange pas. Il y a un suivi là-dessus, Achille Batamak?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que lorsque vous êtes pris en main aussi bien par notre association anti-citoyen que par l'OFI, vous n'en sortez que par votre propre volonté. C'est-à-dire que vous êtes pris en charge de la période où vous êtes venu nous contacter jusqu'à l'instruction du dossier à niveau de l'OFI, le jour de votre départ où vous recevez un billet d'avion, où vous recevez un peu d'argent pour tenir avant que l'instruction de votre dossier ne commence. L'OFI a dans sa répartition des fonctions ce qu'on appelle les représentations extérieures. Ces représentations extérieures travaillent avec des opérateurs locaux. Lorsqu'un candidat ou un migrant arrive, lorsqu'il vient de rentrer dans son pays, il est pris en charge immédiatement par l'OFI, qui diligente, n'est-ce pas, une opération de suivi et d'accompagnement avec des opérateurs locaux qui connaissent le marché, le tissu économique, le tissu industriel du pays, et qui l'accompagnent pour peaufiner ou bien pour parachever ce qu'il a commencé à faire avec nous ici. Nous ne sommes pas toujours au fait du tissu économique de tous les pays africains. Donc il y a
des associations locales comme la vôtre, j'imagine,
des bien sûr, bien sûr. Il y a les opérateurs locaux et il faut savoir que c'est une année d'accompagnement qui peut se
au moins
se prolonger une deuxième année.
Alain Sontag.
Ça va plus loin, j'irai, puisque en fait, arrivé au pays, donc le candidat qui est revenu va en fait voir son dossier homologué par la direction locale de l'OFI et après cela, il va pas partir avec une enveloppe. C'est-à-dire qu'il va avoir des gens à qui le budget va être donné et qui libéreront en fait le budget en fonction de la réalisation du plan qui a été mis en place et approuvé. C'est ça. Que ce soit pour la création d'une entreprise, que ce soit pour acheter un réfrigérateur ou que ce soit pour un emploi, puisque la somme est versée à l'employeur.
Évidemment, la comptabilité est assurée par l'office, si je
absolument.
Et l'opérateur local qui...
Il n'y a pas d'argent de la main à la main, vous l'avez évoqué.
C'est très clair, merci messieurs. On va écouter David. David, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour les invités.
Bonjour David.
Bonjour David.
Voilà. Alors, je suis toujours surpris de voir toute la logistique qui est mise en avant pour moi, une population qui, en gros, n'est pas si importante que ça. Et en plus, moi, je crois que le problème est un problème global. Je m'explique. Rapidement, je vais essayer. Voilà. C'est une politique globale de gestion des migrations parce que aujourd'hui, on a érigé des frontières, des murs autour de l'Europe qui font que quelqu'un qui arrive, qui vient d'aventure, qui à un moment donné a peut-être un projet de repartir au pays, il sait très bien que s'il le fait, il ne pourra pas revenir. Donc, il faut accompagner ces gens avec la possibilité de faire des allers-retours. Le temps que leur projet mûrisse, éventuellement, ces personnes peuvent échouer. De l'autre côté, elles peuvent réussir. Je crois que si on regarde les mouvements des populations subsahariennes, ce sont des données normales. C'est-à-dire que c'est pas l'invasion dont on ne parle. C'est en fait des déplacements en termes humains, ils sont pas si importants que ça. Par contre, si on créait réellement une vraie relation entre ces personnes et le pays qui les a accueillis pendant un moment, qui leur donne un projet économique, et qu'ils aient la possibilité à un moment donné, si vraiment les choses, c'est comme ça quand on fait une entreprise, la
réussite. Faire des allers-retours forcément... finalement entre les deux continents.
C'est ça, la crainte elle est là. Moi je pense que s'il y avait une souplesse au niveau de la gestion des visas, parce que c'est quasiment impossible pour un jeune homme aujourd'hui d'obtenir un visa. C'est impossible. Une fois qu'il est rentré, je le vois mal repartir sur un projet hasardeux comme ça.
On pourrait mettre des millions, je vous assure que ça ne marcherait pas. Par contre, s'il y a une souplesse, des règles qui sont bien définies, je vous assure que les gens partiraient d'eux-mêmes à partir du moment où ils ont la possibilité de se réaliser sur place.
C'est très clair. Merci, voilà. David. On restera sur ce mot de la fin. Effectivement, David, hein, qui souligne la nécessité peut-être d'une meilleure libre circulation entre les gens, les continents, j'allais dire. Rapidement, pour tous ceux que ça intéresse, qui veulent des infos, ils vont sur votre site internet,
oui,
c'est ça ?
Oui, site internet.
Et puis...
Rappelez-le, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Je m'en excuse.
C'est www.tislien.fr.
Tislien.fr et un numéro de téléphone.
C'est le 01 41 10 08 68.
01 41 10 08 68 depuis la France, bien sûr. Et le site internet, c'est www.tislien.fr. Voilà. Merci beaucoup, messieurs.
Nous garantissons la plus parfaite confidentialité à l'ensemble des démarches.
C'est important. Merci de le préciser. Alain Sontag, vous êtes le président de l'association Tislien. Merci beaucoup, Achille Batamak. Vous êtes le directeur général et le trésorier. C'est important.
Merci, Stéphanie. Merci de nous
avoir reçus. Merci, Stéphanie, de nous avoir reçus. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Et puis, on suivra. Hein, vous reviendrez nous parler de ce dispositif avec plaisir. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. Si vous n'avez pas pu intervenir, n'hésitez pas, laissez-nous un message sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est vendredi. C'est donc la libre antenne du JDA. Vous pourrez vous exprimer sur les sujets de votre choix et inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. Restez à l'écoute d'Africa, la radio africaine. À demain.